Bon matin. Voilà. Je vais juste donner quelques mots d'interprétation par rapport au texte que vous avez étudié ce matin, puis ensuite on écoutera le récit d'un autre Nathanaël, Christelle, qui viendra nous raconter son histoire, puis on pourra débriefer ensemble en petits groupes. Cette histoire de Philippe et Nathanaël, moi, ça me fait sourire à chaque fois que je la lis, parce que je me dis que c'est un texte qui, finalement, a 2000 ans, mais qui est profondément contemporain. Ce que je veux que vous puissiez noter dans le récit, c'est la notion de processus. Tout le monde dit processus ?
Processus.
Voilà, c'est ça. La notion de processus. C'est-à-dire que, pour Nathanaël, c'est pas évident de comprendre ce que Philippe dit. C'est pas évident de le comprendre, puis c'est pas forcément évident de le saisir et puis de se mettre en chemin. Ça prend du temps. Ça prend du temps. L'histoire commence au bord du lac, sous un figuier. D'accord? C'est là que le processus commence. Nathanaël est sous le figuier, ce qu'il fait, alors vous avez une petite note, sous le figuier, l'endroit favori pour étudier et prier par temps chaud était à l'ombre d'un figuier. On peut effectivement imaginer que Nathanaël était sous ce figuier et qu'il était en train de méditer, peut-être prier. Au fond, c'est un homme qui est spirituel. À l'époque, c'était la norme. Le mode de croyance par défaut, c'était la croyance. Mais ce qui me saisit dans ce passage-là, c'est qu'il est seul. Il est seul sous le figuier. Et il regarde le monde. Et je pense que dans son cœur, peut-être, il imagine même et il prie même pour la venue du Messie. Peut-être. En tout cas, il y a une forme d'espérance en lui. Il y a une profondeur métaphysique chez lui. Il est en recherche, il réfléchit, il prie. Et là, Philippe l'interrompt dans sa méditation et lui parle du Messie qui a été annoncé par les prophètes. Moïse a dit, voici, un plus grand que moi viendra après moi et vous l'écouterez. Et là, Philippe dit la chose absolument extraordinaire. Il dit, ce Messie, nous l'avons trouvé et il vient de Chicoutimi. Exactement. Donc, il y a plusieurs Nathanaël dans la salle. Chicoutimi, ça n'a pas de bon sens. Enfin, si déjà t'es le Messie que tu viens, bon, minimum syndical, Montréal, hein, ou alors Québec, bon, pour les plus nationalistes, Toronto, c'est viable, Vancouver, c'est déjà quand même assez loin, mais bon, une grande capitale, quoi, hein, mais Chicoutimi, là, faut quand même pas rigoler. Et donc, si le processus commence sous le figuier, dans une forme de perspective profondément individualiste, c'est-à-dire il imagine le monde à partir de ce que lui, il pense être plausible. Lorsque Philippe vient lui parler de ce Messie qui vient de Chicoutimi, ça cède le pas au cynisme. Le cynisme, c'est quoi ? C'est différent du scepticisme. Quand on est sceptique, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. On demande des preuves. Le cyniste, lui, il sait que c'est faux. Et pour lui, le problème, c'est toi. Parce que toi, tu ne sais pas que c'est faux. Et donc, en fait, quelque part, il est embarrassé. Nathanaël est profondément embarrassé que Philippe soit tellement naïf. Mais bon, lui, Nathanaël, il sait parce qu'il était sous le figuier. Et puis lui, il médite. Et puis lui, il comprend. Le problème de Philippe, c'est qu'il est un peu excité. Il est zélé. C'est un converti. Et donc, c'est bien d'être converti, d'être zélé. Mais à un moment donné, il faut être un peu rationnel. Hein, hein. Chicoutimi, il faut quand même pas rigoler, quoi. Et là, on pourrait se dire, ben du coup, c'est mal barré dans le processus. Hein. Philippe, lui, il a envie d'évangéliser, il est à fond, il pense que... Et puis là, il voit un gars, il est profondément individualiste, profondément cynique, et on pourrait se dire, il va le prendre personnellement, le pauvre Philippe, là, il s'est pris quand même une raclée, là, il va repartir en disant, ben moi, je t'aime pas non plus, tu vois, un truc dans le genre. Mais en fait, non, il fait pas ça. Il fait, ben toi qui es tellement intelligent, ben viens voir si j'ai tort. Oui, il s'arrête pas à l'offense. Il le prend pas personnellement. En fait, il sait que témoigner à Nathanaël, c'est prendre le risque de rencontrer beaucoup de cyniques qui partent du principe que, en fait, vous êtes des gens sympas, mais en fait, vous connaissez rien, quoi. Finalement, Philippe se souvient que les histoires des cyniques, ça a commencé très tôt dans l'histoire de l'humanité, hein. Ça a commencé dans la Genèse chapitre 3. Lorsque, en fait, l'homme a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en prenant part à cet arbre-là et en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, il est persuadé que c'est lui qui connaît le bien et le mal. Vous comprenez ? Ça, c'est profond, ça. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à juger les gens ? Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez jugé quelqu'un ? Mais c'est étonnant, ce sport national, c'est un sport international, c'est un sport universel, quoi, je veux dire, le jugement et la critique. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à juger ? Et Dietrich Bonhoeffer, dans son texte sur l'anthropologie humaine, c'est la lecture de la création et de la chute, il dit c'est parce que nous sommes convaincus que nous connaissons le bien et le mal. Parce que nous avons pris de l'arbre. Et donc nous connaissons le bien et le mal. Donc, parce que je connais le bien et le mal, le problème c'est que c'est toi qui ne connais pas le bien et le mal. Donc je me pose comme législateur, je suis celui qui connaît, toi tu ne connais pas. Vous comprenez ? Donc le cynisme, ça remonte à Genèse 3. C'est cette idée absolument absurde qu'on pourrait penser que nous connaissons le bien et le mal, et le problème c'est pas nous, c'est les autres. C'est les autres qui ne connaissent pas le bien et le mal. C'est pour ça qu'on juge. On juge en disant, mais Chicoutimi quand même. Ou alors, on avait dit 9h50. Joël, on avait dit 9h50. Et pourquoi il y en a un qui gare sa voiture sur le parking à 9h52 alors qu'il y a le chasse-neige qui vient? Pourquoi? Pourquoi il connaît pas le bien et le mal? Pourquoi il connaît pas que c'est pas possible de... Pourquoi? Et c'est qui? C'est, en plus, c'est l'orateur. Waouh, on va pas s'en sortir, hein. On va rester dans Genèse 3 et non, parce qu'il y a une promesse d'un Messie qui va écraser la tête du serpent, hein. Mais il vit à Chicoutimi. C'est juste étonnant. Philippe s'arrête pas à l'offense et il dit viens voir. Pourquoi? Parce qu'il sait que quelque part le cynique est pragmatique. D'accord? Lui, pour se débarrasser finalement des zélés, t'as juste à écoute, si tu veux vraiment que je vienne à ta soirée GBU, allez, ok, je viens. Puis après, t'arrêteras de me bassiner avec ton GBU. D'accord? C'est un peu ça, le cynique. C'est la meilleure façon de se débarrasser de celui qui est zélé, c'est de céder à sa proposition. De toute façon, toi, tu sais que Jésus, il vient pas de Chicoutimi, c'est pas possible. Mais tu vas quand même aller voir pour faire plaisir à ton copain. C'est très millénial, ça, hein. Voilà, une forme de cynisme et non confrontationnel. Oui. Et ce que je trouvais absolument étonnant, c'est que dans ce processus-là, qui est un processus profondément sécularisé, qui commence par l'individualisme, je suis tout seul sous mon figuier, j'imagine le monde, je développe mes propres catégories de pensée, de ce qui est le bien, de ce qui est le mal. Je suis cynique dans le sens que je connais, les autres ne connaissent pas. Et puis à un moment donné, je deviens pragmatique parce qu'il faut bien que je me débarrasse de ce zélé. Dans ce processus-là, il y a un autre processus qui est un processus spirituel qui est parallèle à cela. Et ça, je veux que vous le notiez dans le texte, c'est absolument remarquable. Vous voyez, ça commence par Nathanaël qui est tout seul, sous son figuier, et qui veut développer une vision métaphysique du monde et de l'existence. Et le truc qu'il ne voit pas, c'est qu'il est vu. C'est étonnant. C'est absolument étonnant. C'est-à-dire, lui, il pense qu'il est seul, mais il ne voit pas que quelqu'un le voit. En fait, il pense que la seule chose qu'il voit, c'est vrai, c'est la réalité. C'est-à-dire que ce qu'il peut voir est la réalité, et il n'y a rien qui ne soit vrai qu'il ne puisse voir. D'accord ? Autrement dit, n'est vrai que ce que je peux voir. C'est mon horizon métaphysique, d'accord ? Et là, dans cet horizon métaphysique, lui, qui est un homme hyper spirituel, il ne voit pas qu'il est vu. C'est fou quand même. C'est absolument incroyable. En fait, lui qui pense tout voir, il ne voit pas qu'il est vu. Alors là, il est, tu m'as vu? Ben oui, je te vois. En fait, je te vois depuis que, je t'ai vu là sous le figuier, mais je t'ai vu avant aussi. Je t'ai vu. La particularité de notre Dieu, c'est qu'il nous voit dans notre condition publique, mais aussi dans notre condition privée, notre condition intime, et il est assez fou pour continuer à nous aimer. Quand bien même il a vu. Vous voyez ce que je veux dire? Il t'a vu. Mais il ne te condamne pas. Il te pardonne. Deuxième surprise dans ce processus, lui qui est profondément cynique, et qui sait que si le Messie promis par Moïse et les prophètes venait, il n'habiterait pas à Chicoutimi, Jésus lui dit « Je te connais ». Alors là, c'est étonnant. Lui qui pense connaître toute chose, Jésus lui dit « Mais moi, je te connais. Je te connais. D'où me connais-tu ?» Verset 48. C'est profondément troublant pour un cynique de ne pas connaître qu'il est connu. Vous comprenez? C'est la pierre d'achoppement du cynique. Non seulement lui, il est borné à penser que ce qu'il voit est la réalité, mais il ne voit pas qu'il y a au-delà de la réalité qu'il voit quelqu'un qui le voit. Il est convaincu qu'il connaît le bien et le mal et qu'évidemment que Jésus ne peut pas venir de Chicoutimi, mais il y a quelqu'un qui le connaît encore plus que ce que lui peut connaître. C'est hyper étonnant. Et puis ça ne termine pas là parce que alors il se met en route pour faire plaisir à Philippe, pour se débarrasser de Philippe, bien voir le pragmatique se met en route. Et lorsqu'il se met en route et que Jésus le voit, il lui dit « Voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. » Et qui lui dit « De plus grandes choses, tu verras. » Vous savez, pour le pragmatique, lui, il pensait qu'il allait se débarrasser de Philippe. Mais Jésus lui dit non seulement tu ne vas pas te débarrasser de Philippe, mais tu ne vas pas te débarrasser de moi, et puis tu ne vas pas te débarrasser du royaume, et tu vas faire de plus grandes choses. Toi qui t'attendais à si peu en venant voir, les écluses des yeux sont prêtes à se déverser sur ta vie. Et là, il capitule. Des fois, on se dit, Seigneur, c'est quand même pas... Ce copain de classe, d'amphithéâtre, ce colocataire, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Il est tout seul dans sa chambre, il est cynique, il dit que je suis un peu simplé, que je, oui, mais bon, si je crois en Jésus, c'est parce que je suis né dans une famille chrétienne. C'est vraiment pas un cadeau. On peut changer de locataire, on peut changer de propriétaire, tu peux changer. Est-ce que je peux changer d'amphithéâtre? Est-ce que je peux être avec un amphithéâtre évangélique? À Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. Et puis on se dit, non, les gens que tu mets sur ma route, ce n'est pas des cadeaux. Et Dieu dit, fais-moi confiance. Avance, comme Philippe. Et qui sait si à un moment donné, moi, je ne vais pas non plus faire ma part dans ce processus. Si toi, tu t'arrêtes en fait au processus sécularisé, moi, je travaille en profondeur et je l'attends. Parce que dans Nathanaël, son nom, c'est cadeau de Dieu. Et là où toi, tu vois un boulet, moi, je vois un cadeau. Je suis capable de le transformer. En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'en tant que chrétien, quand on est appelé à témoigner, on peut très facilement devenir des Nathanaël. En fait, déjà décider que c'est pas possible que les gens viennent à Christ. Parce que moi, je le vois qu'ils viennent pas à Christ. Et puis du coup, ça nourrit le cynisme. Puis après, quand on dit, ben viens, un week-end GBU, viens voir, on va apprendre sur le témoignage. T'es là, vraiment? Bon, je vais venir, parce que sinon, je vais pas pouvoir me débarrasser de son zèle. Puis vous êtes là ce matin, quoi. C'est étonnant, hein? C'est facile de devenir des Nathanaël en tant qu'évangélique. C'est très facile. Mais est-ce qu'on a le choix? vais laisser la place à Christelle. Un autre processus, une autre histoire.
Bon matin tout le monde. Oh, je dois remonter le micro. Voilà. Bon matin tout le monde. Je dois m'habituer aux expressions québécoises. J'aime beaucoup cette expression, bon matin. Tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai quitté les gens avec qui j'avais le déjeuner, pas le petit déjeuner. Je leur ai dit à tout à l'heure. Et m'ont poliment répondu, parce que les Québécois sont très gentils, m'ont poliment répondu à tout à l'heure. Mais c'était, ils sentaient bien que c'était pas une expression normale. Alors j'ai dit à tantôt, et là ils ont dit ah à tantôt. Le paradoxe dedans, c'est que en Belgique aussi on dit à tantôt, mais je me suis francisé avec le temps. Je peux aussi vous faire ma présentation avec un accent de Bruxelles, un accent bien belge si vous préférez, mais je ne suis quand même pas sûr que vous allez tous comprendre ce que j'ai envie de dire. Alors. On m'a demandé ce matin de partager un récit de vie. Je dis un récit de vie, j'allais dire mon récit de vie, parce que il y a un milliard de façons de raconter son parcours. Et puis, j'ai bien saisi que le contexte de notre fin de semaine, c'est le contexte du témoignage de vie, du parcours de vie, du fait d'être témoin de Christ dans une société comme celle au Québec, qui... comme celle où moi j'ai grandi, c'est-à-dire l'Europe, la Belgique, est une société qui est sécularisée. Et donc, au travers de ce que je vais partager, et là vous feriez bien de prendre note, au travers de ce que je vais partager, il y a quelques grandes thématiques que vous allez voir émerger, sans doute. Et après... mon récit, ce qu'on va vous demander, c'est de vous mettre par petits groupes de 3 ou 4 personnes et d'identifier les thématiques que vous avez décelées, qui vous ont marqué dans ce que je vais vous partager, et de faire 3 choses autour de ces thématiques. La première, c'est essayer de discerner de quelle manière ces thématiques résonnent ou font écho avec votre réalité. Votre parcours. Est-ce qu'elle pointe même vers des situations que vous avez connues personnellement ou dans votre entourage proche? Première chose. Résonance. Écho. Par rapport à moi. Deuxième chose. Et ça, c'est une question spécifique. Dans quelle mesure Dieu s'est-il invité dans cette situation, dans ta propre vie? Dans quelle mesure Dieu s'est-il invité dans cette situation, dans ta propre vie? Et puis, la question jumelle, est-ce que tu l'as accueilli à ce moment? Parce qu'il arrive très souvent que Dieu s'invite dans nos situations et qu'on garde la porte close. Et puis, la dernière chose, c'est une question qui va peut-être vous piquer un peu, ces grandes thématiques, ces situations, est-ce qu'elles se manifestent dans la réalité de tes amis? De tes collègues, de tes connaissances ici au Québec. Est-ce que tu peux reconnaître cela dans la vie des autres? Parce que en deuxième partie de cette matinée, ce qu'on fera, c'est regarder un petit peu plus, de façon plus analytique, le parcours et le cheminement des gens vers la foi dans une société qui est séculière et postmoderne. Mais à ce stade-ci, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour vous partager ce récit de vie. Alors, 2 avertissements. Le premier, c'est que il est possible que je dise des choses qui sont dérangeantes, perturbantes. Il n'y a aucune intention derrière le dérangement ou la perturbation, mais je le dis comme ça. La deuxième chose, c'est que c'est la première fois que je le partage dans un groupe aussi grand. Je pense que le plus grand nombre de personnes, la foule la plus nombreuse qui a écouté une version de ce récit de vie, c'est un groupe de 6 personnes. Ok. Donc c'est aussi une étape pour moi de pouvoir le partager. Mais voilà, comme Joël m'y a invité, je me suis plié à la demande qui était la mienne. il y a un cri de ralliement. Vous l'avez entendu hier, je suis d'origine camerounaise. Il y a un cri de ralliement qui a été inventé par un humoriste du Cameroun qui s'appelle Jean-Michel Cancan. Alors, pour ceux qui sont d'origine camerounaise et qui le connaissent. Et le cri de ralliement demande qu'il y ait une réponse. D'accord ? Donc, l'appel, c'est « Famille O ». Ah, voilà. Il y a des connaisseurs. Et la réponse est « O ». D'accord ? « Famille O ». Famille.
Oh.
Voilà. Vous avez compris? On va le refaire pour que tout le monde puisse participer. Famille. Oh.
Oh.
Famille.
Oh.
L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dans le passé, Dieu, le créateur de l'univers, révéla à un homme, cet homme du nom d'Abraham, il se révéla à lui et lui fit une promesse que cet homme devrait aller là où Dieu le conduirait. Et si cet homme faisait confiance en Dieu pour sa vie et pour son avenir, cet homme recevrait une bénédiction. Et non seulement il recevrait une bénédiction, il pourrait être une bénédiction pour d'autres. Et non seulement il serait une bénédiction pour d'autres, mais cette bénédiction se perpétuerait de génération en génération. Famille O.
Oh.
Famille.
Oh.
Mon récit commence au commencement. Alors très loin de la terre d'Abraham, très loin des temps d'Abraham, très loin de cette terre, de cette époque, dans les collines et les prairies de l'ouest du Cameroun, Dieu, le créateur de l'univers, s'est aussi révélé à des hommes, des femmes et des enfants qui ont décidé de mettre leur confiance en lui, dans le nom de Jésus. Ces hommes et ces femmes ont quitté leur foi et leur mode de vie islamique. Et ils ont continué sur la voie qui leur était ouverte. Ils ont mis leur confiance en Dieu, au nom de Jésus, et ont décidé de le suivre partout où ils allaient. Je suis né dans ce contexte, au Cameroun, en tant que premier fils de chrétien de deuxième ou troisième génération. Et mes parents, peu de temps après ma naissance, ont décidé l'un puis l'autre de quitter leurs emplois très respectables dans le secteur bancaire pour prolonger leurs études en Belgique et puis commencer plus tard une nouvelle vie avec moi à Bruxelles, la capitale du pays. Famille O.
Oh.
Famille.
Oh.
Comme pour beaucoup d'entre nous, la vie n'est pas faite de papillons roses. Ma vie commence au commencement, mais la deuxième étape, je l'ai intitulée la lutte. Mes premières années de vie ont été remplies d'amour et d'attention, mais aussi remplies de temps à regarder mes parents aspirer à réussir, faire face à une fausse couche, suivie par une autre grossesse difficile, fonder une entreprise ensemble, à deux, et puis prendre soin de notre famille grandissante, avec finalement quatre enfants, et en même temps soutenir notre famille élargie au Cameroun. Tout en faisant face, avec succès, à la discrimination et aux préjugés dans un pays à majorité blanche et dans une société postcoloniale. Cependant, durant mon enfance, mon père, bien que très conscient de ses responsabilités familiales en tant que père, était absorbé par son travail, extrêmement pris. C'était pas facile. son travail était difficile et comme chef d'entreprise, il était très occupé. Et du coup, de moins en moins impliqué dans la vie de la famille. La relation entre mes parents est devenue de plus en plus difficile et elle s'est progressivement détériorée au point de considérer le divorce malgré les 4 enfants qu'ils avaient alors. Alors tout cela a eu lieu dans un contexte de vie d'église très irrégulier. Mon père allait rarement à l'église et il voulait bien de temps en temps nous y déposer en voiture en chemin vers le bureau le dimanche matin. Ma mère nous accompagnait parfois à l'église quand mon père ne le faisait pas. Mais elle était plus une pratiquante qu'une véritable disciple en ce temps-là. Il n'y avait pas de vie communautaire avec l'église, sans même parler de notre culte familial en famille, c'était inexistant. On priait très peu. Il arrivait de temps en temps qu'on chante une chanson chrétienne à la maison. Pendant tout ce temps, je pense que je n'ai pas eu de foi propre à moi-même. Mes croyances étaient quelque chose qui était déposé en moi. Oui, dans les conversations avec mes parents, bien sûr, ils me disaient qu'il y avait un Dieu, qu'ils suivaient Jésus, qu'on allait à l'église. Ils me racontaient un petit peu l'histoire de l'évangile, sans plus. Il y avait des histoires intéressantes que j'entendais à l'école du dimanche. J'entendais des chansons chrétiennes par-ci par-là. Et parfois des prières à la maison ou avec d'autres personnes. Parfois des conversations familiales. C'est tout ce que j'avais. Et je me souviens avoir été particulièrement impressionné à un moment de mon enfance. J'allais souvent à l'église avec des jouets. Et j'avais mon jouet préféré, qui était un crocodile en plastique, que j'emmenais partout. Je l'emmenais à l'école, je me baladais dans les rues avec, et puis le dimanche matin, je l'ai amené à l'église. Et puis en partant, je l'avais oublié. J'ai oublié à l'église. Vous vous rendez compte, le jouet d'un petit enfant, quand même. Mais on n'allait pas à l'église tous les dimanches. Donc, il a fallu plus de 2 mois avant que je retourne à l'église, sans évidemment espérer récupérer mon jouet, parce que moi, mon expérience était si tu oublies ton jouet, ben il y a un autre enfant qui va le prendre et puis il va rentrer chez lui avec. Mais l'animatrice de l'école du dimanche m'a ramené ce jouet. Christelle, tu as oublié ton crocodile la fois dernière. J'étais ébahi. Ça paraît absolument trivial comme histoire. Mais pourtant, pour un enfant, ça marque. Pourquoi ? Parce que ça m'a laissé le goût de la vie. C'est comme ça que je l'écris. À ce moment, les choses, les affaires de Jésus, l'histoire des chrétiens, toutes ces choses dont on parlait, tout à coup, a commencé à avoir un goût de réel. Et je me suis dit, ah, mais ça c'est bien, j'en veux. Ça avait le goût de l'amour, le goût de la joie, le goût du sacrifice de soi. Parce que ça veut dire que des enfants ont renoncé à prendre ce jouet. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pensé à moi et à mon bien. Quelqu'un que je connaissais pas. Alors, tout cela avait l'air bien vu de l'extérieur, mais il n'y avait pas de passion personnelle. Il n'y avait pas d'intérêt particulier. J'étais beaucoup plus intéressé par ce que j'apprenais à l'école. Alors là, l'école, c'était autre chose. Hein. L'école, j'y allais avec joie, je participais très activement. Et c'est aussi à l'école que je trouvais l'affirmation et la présence bienveillante dont je manquais de la part de mon père. Alors, les enseignants, les éducateurs à l'école vantaient mes parents pour nous avoir si bien élevés. Et ils étaient très élogieux à mon égard. Ils disaient, ouais, Christelle, c'est un garçon intelligent, il est futé, mais il est très désorganisé. Il doit faire des efforts. Il est peu concentré en classe. Alors, ça n'a pas changé. C'est précisément ce qui m'a fait sauter une année scolaire, mais ça a appuyé chez moi le sentiment que j'étais un peu différent des autres, un petit peu à part, vous voyez, un peu spécial. Et spécial, c'est pas forcément un mot positif. En tout cas, en Belgique, je sais pas comment c'est ici. Alors, j'étais un enfant curieux, légèrement introverti, et j'ai toujours aimé découvrir de nouvelles choses, poser des questions, réfléchir aux choses et partager tout cela autour de moi. Je faisais des questionnaires scientifiques à ma maman, qui devait m'expliquer comment fonctionnait le système solaire quand j'avais 5 ans. Je me souviens, elle utilisait des ballons pour m'illustrer. Et pendant mon enfance, je m'imaginais avoir une salle de classe imaginaire à qui je faisais le cours de façon régulière. Vous vous rendez compte? Donc il y avait des choses que je voulais comprendre à propos de la vie, et une façon de comprendre, c'est chercher à expliquer. Je voulais savoir notamment si la foi était quelque chose qu'on peut tester et mettre en pratique, ou si c'était juste des récits que j'entendais autour de moi, qui venaient des adultes ou qui venaient de cette institution bizarre qu'on appelait l'Église. Parce que mes amis n'allaient pas à l'église. J'étais étrange parmi les gens étranges. Et j'ai eu l'impression que plus je voulais faire confiance en Dieu, plus lui me montrait qu'il était digne de confiance et qu'il voulait m'aider. Vous voyez, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt rationnel, plutôt analytique, plutôt cartésien, plutôt cynique. Et me tourner vers Dieu et lui faire confiance pour recevoir de l'aide, c'est pas quelque chose que j'aurais considéré comme normal. Encore moins écouter ce que Dieu veut. Non. Dans mon enfance, j'ai appris à ne pas faire confiance aux autres. J'ai été brutalisé quand j'étais enfant. J'étais victime d'abus, y compris sexuels. Et il a fallu que je vive avec cette blessure et que je vive ma vie de façon normale. Alors, vous pensez bien, quand on vous dit de faire confiance à quelqu'un que vous ne voyez pas, non merci. Je préfère apprendre comment le monde fonctionne, me débrouiller par moi-même, et puis je m'en sortirai. C'était pas évident, mais me débrouiller moi-même, c'était ma politique. Chercher à comprendre les choses par moi-même, malgré la colère, malgré les larmes, en me réfugiant dans la joie que j'avais à apprendre, à expliquer les choses à ma classe imaginaire. Parce que je trouvais beaucoup de joie dans ce que j'apprenais et j'espérais qu'un jour je trouverais des réponses à mes questions et des solutions à mes problèmes de garçon de 11 ans. Et mes luttes intérieures avec le fait de me sentir mal aimé, mes luttes par rapport à mon identité, tout ça, malgré la situation, je me disais c'est sur une bonne pente. Et effectivement, petit à petit, grâce à une thérapie familiale, les choses commençaient à s'arranger avec mon papa. Mes parents se sont rapprochés l'un de l'autre et il y a eu une réconciliation. Petit à petit, ils ont arrêté leur bagarre. Et pour moi, c'était une démonstration de la puissance de la sagesse humaine, puisque les choses allaient mieux. Famille, oh! Famille, la vie ne s'arrête pas là. J'ai continué et s'est ouvert un chapitre que pour vous j'ai intitulé après la lutte, la lumière. Alors, quant à cet âge-là, j'avais 11 ans, ma prof de religion à l'école, alors je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en Belgique on a des cours de religion. Et j'étais dans une école catholique. Il y avait cette prof, cette enseignante, elle s'appelait Madame Marchand. Voilà, Madame Marchand, les enfants peuvent être méchants hein, par moment. Madame Marchand, déjà elle s'appelait Marchand. Qu'est-ce qu'elle vient nous vendre, Madame Marchand ? C'était la joke de la cour d'école. Puis Madame Marchand portait une perruque. Et parfois, on voyait l'étiquette de sa perruque sortir. Ça lui attirait beaucoup de moqueries. Mais Madame Marchand était passionnée par son enseignement de la religion catholique. Et puis, elle était très démonstrative hein, pour démontrer la foi des disciples. Parfois, elle se jetait à genoux sur la tribune de la classe. On était tous impressionnés. Et puis Madame Marchand, elle avait une approche particulière de l'enseignement de la religion catholique parce qu'elle nous apportait des Bibles. Ouais. On avait le droit d'ouvrir la Bible et de lire la Bible au cours de religion catholique. C'était pas très répandu. Et au printemps, Madame Marchand nous a lancé un défi. Elle a dit, voilà, je voudrais que tous les élèves fassent une présentation. Essayez de faire une présentation sur une figure religieuse de l'histoire ou une figure religieuse contemporaine, donc un leader religieux. Donc chacun pouvait choisir. Et puis moi j'ai commencé à réfléchir, et puis elle m'a regardé, elle a dit « Oh Christelle !»« Oui, madame. » »« Tu es protestant, toi, non ?»« Oui, madame. »« Tu connais des pasteurs ?»« Oui. »« Ok. Tu vas nous faire une présentation sur ton pasteur. » Ça tombe bien, je connaissais pas du tout mon pasteur. Alors, dans l'église que fréquentaient mes parents, bon an, mal an, il y avait un nouveau pasteur qui s'appelait David. David Bouillon, c'est son nom de famille. Et David avait commencé sa carrière de pasteur. Ça faisait que quelques années qu'il avait commencé un ministère ordonné. Et donc, Madame Marchand voulait que j'aille faire un entretien, une entrevue avec lui, et pour pouvoir faire une présentation. Alors moi, ce que j'aimais, c'était chouette, je vais enfin pouvoir faire une présentation à ma classe, ça sera plus imaginaire. Je pourrai parler, puis démontrer ce que j'ai appris de la part de Monsieur le Pasteur, et puis leur expliquer ce que c'est qu'un religieux dans la vraie vie. Ça tombe bien, parce que moi aussi, j'étais curieux, je voulais savoir ce que c'était. Alors c'est ce que j'ai fait, et j'ai eu une entrevue avec lui, et il a pris cette entrevue très au sérieux. Je me souviens exactement des circonstances, c'était après le culte, mes parents s'en sont allés, et puis on est resté 2 heures à discuter dans le bureau du pasteur. Non seulement il a répondu à mes questions, mais il m'a aidé à trouver des choses intéressantes à dire pendant la présentation. Alors j'étais encore plus content parce que je pourrais surprendre les autres et leur faire plaisir. Mais il était aussi intéressé par moi. Il m'a posé des questions sur moi, sur mon parcours, et c'était étrange pour moi de prime abord parce que après tout, moi je connaissais pas ce gars-là. C'est qui ? Mais là, il y avait quelqu'un qui était véritablement intéressé par moi, qui faisait preuve d'amour, qui faisait preuve de leadership, et qui me parlait de son cheminement personnel qu'il avait fait avec Christ. Que lui, toute sa vie, il s'était dit « Je ne serai jamais pasteur, je ne vais pas être comme mon père. » Et qu'à un moment, Dieu l'a surpris. Alors pour moi, c'était très conceptuel tout ça, mais j'étais étonné d'entendre quelqu'un parler de Dieu qui s'implique dans sa vie de façon aussi authentique. Est réel. Alors j'ai décidé d'en mettre plein la vue à mes camarades de classe quand j'ai fait ma présentation. J'ai eu des très bonnes notes. Et en même temps, j'ai décidé de me joindre au groupe de jeunes de l'église parce que je me suis dit, voilà, c'est quand même un contexte intéressant. J'ai envie d'en savoir plus. Environ un an plus tard, j'allais à l'église un peu plus souvent et j'ai décidé de rejoindre une retraite écuménique en Alsace. L'Alsace, c'est une province, une région qui est au nord-est de la France. Et donc le pasteur David m'avait invité là avec d'autres jeunes de l'église. Et on était le contingent belge, évidemment on arrivait en retard. Donc imaginez un groupe de 500 personnes et puis une quinzaine de Belges. Ah, les Belges sont arrivés, ah, 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 blablabla. Donc on s'est fait remarquer dès le départ. Mais voilà, on est arrivé en groupe et c'était pour moi la première fois de voir autant de jeunes passionnés, bon, alors, passionnés, j'aurais pas dit à ce moment-là, mais ils avaient l'air très enthousiastes en tout cas, par leur foi, la musique était vibrante, l'adoration musicale était plus exubérante que ce à quoi j'étais habitué à l'église. Bah, évidemment, c'était des jeunes essentiellement. Et surtout, c'est la première fois que je réalisais que des gens pouvaient avoir une connexion émotionnelle avec ces affaires de l'église. Ils avaient l'air personnellement impliqués. Alors, je dis pas qu'à l'église, c'était pas le cas. C'est juste, je l'avais jamais remarqué à l'église. Et là, tout à coup, je vois tout un groupe, y compris beaucoup de gens proches de mon âge, qui ont l'air vraiment impliqués personnellement. Ça avait l'air d'être une conviction personnelle. C'est ça, c'était encore une fois, c'était très conceptuel pour moi. J'avais l'impression d'être un chercheur en anthropologie qui arrive dans une nouvelle tribu et qui analyse ce que les gens font. J'avais jamais réalisé que la foi chrétienne pouvait être aussi réelle et personnelle pour les autres. Moi, je trouvais ça même bizarre. Et je comprenais pas pourquoi les gens étaient si impliqués, pourquoi parfois les gens pleuraient, se mettaient à pleurer. Et je me suis tourné à un moment vers David, pendant un temps d'adoration, qui lui aussi s'était mis à pleurer. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que je suis tombé? Ou peut-être qu'il a un drame dans sa famille, est-ce qu'il est en deuil? Pourquoi est-ce qu'il est tellement touché? Pourquoi pleurer à propos des choses de Dieu? C'était quoi exactement cette histoire de Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous rend joyeux et qui nous donne la vie? C'était très conceptuel. Mais j'étais curieux. Cynique et curieux. Famille. Dans les temps anciens, comme je l'ai dit au début, Dieu, le créateur de l'univers, s'est révélé à Abraham. Ce temps qu'Abraham l'écoute et fasse confiance à Dieu pour son avenir. C'est difficile de trouver les mots pour ce que j'ai vécu là-bas, en Alsace. Mais j'ai l'impression que mon identité a été redéfinie pendant cette expérience, pendant cette retraite. Je me souviens, c'était une très grande salle, et moi et mes amis, on était le plus loin possible de la scène, donc vraiment le dos sur la vitre, là, on regardait de loin ce qui se passait. Il y avait des chants, de l'adoration, l'invocation du Saint-Esprit, et tout ça, c'était vraiment, je vous disais, hein, moi, je suis comme un anthropologue dans une nouvelle tribu, qu'est-ce qui se passe? Puis, honnêtement, on se moquait un peu de ce qui se passait sur scène, hein. Je veux dire, ouais, ils sont quand même émotifs, ces gens. Pourquoi ils sont tellement impliqués? Cynique. Mais à un moment, le prêtre qui était là a dit, voilà, pour ceux qui veulent, il y a une grande croix en bois dans le coin de la salle. Vous pouvez vous asseoir et prier silencieusement. J'ai dit, ah, ok, s'asseoir et prier silencieusement, ça je peux faire. Ça, c'est l'introverti en moi là qui parlait en disant, ouais, ça, ce niveau d'engagement, c'est raisonnable, c'est rationnel, c'est cartésien, je vais faire ça. Je vais m'asseoir au pied de la croix et je priais. Et de façon inattendue, Dieu s'est révélé. J'ai rien vu, je n'ai rien entendu de particulier, mais Dieu était clairement présent. Tu es mon enfant et je t'aime. Et j'étais bouleversé. Tout à coup, il m'est paru évident que Dieu est réel et qu'il prend soin de nous. Ces affaires d'église, là, c'est vrai, c'est réel. Incroyable. Et je suis rentré dans mon dortoir, ce soir-là, en ayant compris que mon péché et la façon dont je vivais me rendaient impur, mais pourtant accepté par ce Dieu. Et tout à coup, j'ai eu le plus vif désir de vivre pour lui et de l'aimer en retour. Comme Abraham, d'aller où il me conduirait. Famille haut, famille. La rencontre avec Dieu vous met sur une nouvelle voie. Pour la première fois, dès mon retour à Bruxelles après cette retraite, je suis allé à l'église. Tout seul! Imaginez mes parents qui sortaient de leur sommeil, hein, quand à 9h50, j'étais tout habillé pour sortir et aller prendre mon bus et puis le métro pour aller à l'église. Ils ont eu un choc. Quelque chose a commencé à changer en moi et dans notre famille par conséquent. Dieu était en train de préparer sa bénédiction. Mes parents ont vu le changement en moi. Mon caractère était différent. J'avais des problèmes de gestion de la colère étant enfant. Mais je suis très vite devenu une personne beaucoup moins colérique. Plus extravertie aussi. Mes parents ont été impressionnés. Ils ont donc décidé de m'encourager et d'aller à l'église un peu plus souvent. Et assez vite, ils ont commencé à accueillir chez eux des groupes de prière et puis d'études bibliques et des événements d'évangélisation à domicile. Et ça a ravivé une foi familiale. On a plus souvent commencé à prier ensemble, à chanter ensemble, à parler de Dieu. Ils ont commencé à être formés plus intensément en tant que disciples et plus réconciliés encore. C'est ça qui leur a permis de traverser une autre crise entre eux et une crise familiale, très différemment. Donc il n'y a pas que la sagesse humaine. Et puis moi aussi, j'ai été formé comme disciple dans notre, on appelait ça un groupe de catéchisme dans mon église et les activités du groupe de jeunes. Et j'ai été personnellement encadré par David, qui m'a mentoré, et tout ça m'a aidé à grandir et à traiter les doutes que j'avais dans ma foi, les problèmes avec moi-même. Après avoir vu mon cheminement avec le Christ, entendu mon histoire, David m'a baptisé dans ma nouvelle identité en Christ. Avec sa femme, ils m'ont offert ce petit verset de l'évangile de Marc, je cite. « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » C'est quelque chose sur quoi je continue à travailler, et le fait de vous raconter cette histoire ce matin, ça fait partie de l'accomplissement de cette mission. Comme je le disais, dans les temps anciens, Dieu, le Créateur de l'univers, s'est révélé à Abraham, et a promis que si Abraham mettait sa confiance en lui, pour sa vie et son avenir, Dieu serait fidèle et qu'il le bénirait. Pour que Abraham lui-même soit une bénédiction et que cette bénédiction perdure de génération en génération. Dieu m'a conduit à placer ma confiance en lui. Au départ, un jeune garçon troublé et cynique. Dieu avait placé mes ancêtres sur le chemin du salut et de la bénédiction générationnelle. Dieu a placé mes parents sur un chemin européen où ils continuent de lui faire confiance et à le servir. Dieu a mis mes blessures et mes problèmes sur le chemin de la guérison intérieure. Dieu a mis ma curiosité naturelle sur le chemin du renouvellement de l'intelligence. Dieu a mis ma vie et mon cœur sur le chemin d'une relation amoureuse avec une jeune amie allemande qui est devenue mon épouse. En tant que jeune adulte, j'ai été ébloui par la gloire de Jésus. Et j'ai décidé de lui consacrer ma vie et mes choix, particulièrement mes choix de carrière, et de lui consacrer les chemins où il me mènerait. La meilleure trajectoire de ma vie passe par lui. Et pour ta vie aussi, j'en suis sûr. C'est pour ça que dans le contexte de mes études, je me suis dit, Seigneur, je sens que tu m'appelles à te servir. Seigneur, je sais que j'ai cette passion pour les affaires publiques et la politique. Je ne sais pas comment réconcilier les deux, Seigneur, mais avec toi, je verrai. Et donc ce chemin m'a amené à combiner ma compréhension de la vision chrétienne du monde et ma vision passionnée de la Seigneurie de Jésus-Christ sur tout ce qui existe, afin de le servir. Dans le domaine de la politique, notamment en tant que chrétien impliqué dans les affaires européennes. Donc vous le voyez, dans mon parcours, il y a beaucoup de choses. L'expérience des gens qui m'ont précédé, le contexte dans lequel je suis né et j'ai évolué, les choses que j'ai endurées, ma rencontre avec Jésus et la transformation que ça a impliqué. Dans mon récit, je suis sûr, vous avez repéré des points tournants, des thématiques qui vous rejoignent peut-être vous personnellement ou des gens que vous avez connus. Mais mon parcours de vie n'est qu'un exemple. Je ne suis pas unique, bon, si je suis unique, mais je ne suis pas particulier, je ne suis pas spécial. Rendez-vous compte que, tout comme vous, autour de vous, des dizaines et des dizaines de personnes ont des parcours de vie et sont passées par des situations où Dieu s'est invité. Eux ne l'ont peut-être pas reconnu. Mais peut-être que vous pouvez être l'outil pour qu'ils le reconnaissent.